Bonjour à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue et http://www.rfpp.net pour nous suivre partout dans le monde. Et cette émission sera rediffusée mardi matin de 7 à 8 et très bientôt téléchargeable sur le site de RESF. Et là, nous venons donc d'écouter un extrait du prochain album de Adam l'Ancien, donc ce n'est plus Adex Adamopoulos, mais Adam l'Ancien quand il chante, et c'est un hommage à Pavlos Fessas, qui est un rappeur grec, qui a été assassiné par Aube Dorée, et un rappeur grec qui était de tous les combats, et pour les migrants, et pour les sans-papiers, et pour les gens qui sont à la rue, et assassiné par Aube Dorée, qui s'amuse entre autres à terroriser les bidonvilles de migrants, à Athènes et ailleurs.
Oui. On n'en est pas encore là chez nous, mais si on n'est pas vigilant, là, ça pourrait venir.
On en est là chez nous, notamment à Calais.
Ah bah à Calais, oui, on en est là. C'est exact. À Calais, on en est là, bien sûr.
On en est là. Bon, ça peut être pas la même ampleur encore qu'en Grèce, mais Calais, ça devient...
Tout à fait.
C'est très violent.
C'est un état, c'est un endroit de non-droit, maintenant, complètement.
C'est vraiment... Bon,
c'est la sauvagerie, quoi.
Voilà. Et donc, enfin, on n'était pas, là, enfin, on n'avait pas prévu de parler de Calais maintenant, mais quoique, on voulait surtout parler du livre d'être publié, que tu as écrit. Un petit appel quand même. Donc, nos amis de Lyon, hein, de la FCPE, qui participent à l'occupation des écoles, pourraient nous appeler d'ici une demi-heure. Donc, ça chamboulera un petit peu.
On s'interrompra, c'est pas grave.
L'émission, mais c'est pas grave.
Ils ont la priorité.
Voilà. Donc, déjà, tu viens d'écrire ce livre, donc, qui est publié chez l'Harmattan, Les papiers, le combat de la dignité, 1000 voix, 1000 chants.
Oui.
Déjà, c'est un titre.
Oui. Alors, au départ, ça devait s'appeler 1000 voix, 1000 chants. Et puis, Les papiers, le combat de la dignité, ça devait être en sous-titre.
Ouais.
Et puis, sur suggestion, j'ai inversé pour des histoires mercantiles, pour qu'on le retrouve mieux.
Ouais.
Parce que 1000 voix, 1000 chants, ça parle à personne. Mmh. Voilà, donc je l'ai mis en sous-titre. Voilà.
Voilà. Et c'est un sous-titre ou un titre, mais un sous-titre, effectivement, c'est 1000 voix, 1000 chants. On ne va pas forcément penser au combat pour les papiers.
Mais bon, ça fait suite au film qui s'appelait 1000 voix, qu'on avait fait il y a quelques années et qu'on est en train de ressortir. Donc, à chaque fois qu'on fera une réunion autour du livre, on proposera aussi le film pour pas grand-chose. Quoi. Voilà.
Ah, et donc, c'est un bouquin que moi, j'ai beaucoup aimé, que je trouve particulièrement intéressant parce que... Alors, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce qu'après tout, c'est toi qui l'as écrit, c'est donc toi qui en parlera beaucoup mieux que moi. Et parce que moi, je ne suis que lecteur du bouquin, mais donc tu parles de personnes, de tranches de vie, de trajectoires, de parties de trajectoires, où tout le monde va se retrouver autour du collectif de Saint-Just.
Oui. En fait, au départ, c'était un projet, c'est un vieux projet. C'est un projet qui date de 2010. C'était au moment de la grande grève. Je rappelle quand même qu'entre 2008 et 2011, il y a plus de 6000 sans-papiers qui ont fait jusqu'à 18 mois de grève. 18 mois sans toucher d'argent, sans pouvoir en envoyer au pays. C'était quand même héroïque. Et pendant ces 18 mois de grève, il s'est passé énormément de choses, et notamment dans le 17e arrondissement, puisque sur les 6000 nationaux, il y en avait 2000 dans l'arrondissement. Alors, ils n'habitaient pas forcément tous là. C'est parce qu'il y avait les grosses boîtes. Mais c'est là où il y a eu les plus grandes occupations. Et on avait commencé à faire comme on faisait le buzz dans la rue et qu'on essayait de ramener des sous parce qu'il faut manger quand même. Il y avait quand même 6000 personnes qu'il fallait nourrir pendant 18 mois. On faisait de l'agitation dans les rues, sur les marchés et tout. Et puis, j'avais commencé les interviews un peu au départ pour Politis et pour Charlie. Puis, c'était pas possible parce que c'était 1200 signes. Enfin, c'était beaucoup trop contraignant. Et puis, on a fait des grandes affiches avec les premières interviews et les gens dans la rue les lisaient. Et les gens s'intéressaient à ça. Alors on a eu l'idée d'en faire une brochure, puis un livre, puis ça s'est pas fait pour des tas de raisons. Et j'ai eu la chance de re-rencontrer Martine Vernier en juin, qui m'a dit mais t'avais pas des textes, etc. Et elle m'a largement poussée, elle m'a pas lâchée jusqu'à ce que le livre soit fait. Voilà.
Voilà. D'ailleurs, il me semble que tu avais lu un texte il y a quelques années, ça devait être en 2011, que tu venais d'écrire ou de coécrire, parce qu'en fait, la plupart des textes qui sont là, c'est des histoires qu'on te raconte.
Oui, donc, je remets en forme, oui, tout à fait.
Tu les as un petit peu remises en forme, tu les as transcrites en respectant bien ce que
la personne dit. Tout à fait, sans changer le vocabulaire ou les mots, sans mettre des mots à la place.
Voilà.
Et puis des textes de moi aussi, voilà. Voilà. Des petites chroniques, des choses comme ça.
Et un des aspects que j'ai trouvé donc particulièrement intéressant, c'est que tu as tous les gens qu'on rencontre, parce qu'en fait, on rencontre des gens en lisant ce livre, que ce soit des militants, des voisins, des sans-papiers, des gens qui sont dans certains cas tous à la fois, parce qu'on peut très bien avoir été être militant, oui, avoir eu des papiers, ne plus avoir des papiers, tout continuer à être militant, ne plus être militant.
Pascal,
être
par exemple, c'est un ancien sans-papiers, voilà, qu'on a connu nous en tant que voisins. Oui. On l'a connu en tant que voisin, on ne l'a pas connu en tant qu'ancien sans-papier. Ouais. Et c'est en l'interviewant qu'on a découvert qu'il avait été sans-papier très longtemps.
Voilà, et donc chacun d'entre nous, en fait, est susceptible d'être un jour, de se retrouver en situation irrégulière. Mais bon, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça montre en même temps toutes les raisons pour lesquelles la trajectoire qui a amené chacun à être dans la lutte.
Oui, parce que c'est pas des textes intimistes, hein, mais c'est des textes très très personnels. Je pense qu'il y a des gens qui racontent des choses ça donne des exemples, ça fait des gens qu'on rend à l'humanité. C'est pas juste des personnages comme ça, un petit peu excentriques et qui s'occupent de choses bizarres comme les sans-papiers. Tout leur parcours explique le pourquoi de la chose. Mmh. Alors ça va de Dominique qui dit moi je voulais surtout pas entendre parler de sans-papiers dans mon syndicat, surtout pas, je voulais pas y mettre le nez, puis finalement j'y ai mis le doigt, la main, le bras, la totale, à des gens qui expliquent bien. Je pense par exemple à l'interview de Mario qui repart de ses parents, qui repart du syndicalisme de ses parents. Et dire que pour elle, ça lui a semblé évident de s'occuper des sans-papiers. C'était les premiers sans-papiers qu'elle a rencontrés. C'était absolument une évidence pour elle. Il y a des gens qui sont venus par des biais plus politiques. Ça peut être différent aussi.
Voilà. Et il y a des gens, donc, parmi les premiers combattants quand même pour le droit des sans-papiers, c'est les gens qui n'ont pas de papiers.
Oui, bien sûr. Ou des gens dont les parents ont été sans-papiers.
Ou des gens dont les parents ont été sans-papiers.
On a souvent des parcours comme ça, parce qu'il y a pas mal d'interviews que je n'ai pas gardées, parce qu'il y a quand même des soucis marchands, et moi je voulais absolument qu'il soit en dessous de 20 euros, ce livre. Donc il fallait absolument réduire au maximum, et j'ai réduit de manière à ce que ce soit d'abord lisible. Moi je voulais que ce soit lisible par les sans-papiers eux-mêmes. Donc c'est des petits textes, donc on n'est pas obligé de lire un roman, quoi. C'est-à-dire qu'on peut lire la page 20 ou la page 30. Voilà, on peut lire une interview de temps en temps. Ça se lit tout seul et je voulais que ça serve pour des cours d'alpha. Parce que dans les cours d'alpha, on a un souci, c'est que les textes pour adultes, corrects et intéressants, sont très difficiles à trouver. On trouve souvent des textes pour enfants. Or, Le dragon et la princesse, pour un adulte, c'est pas très intéressant. Et moi, je me souviens, pour un copain, avoir trouvé le dictionnaire des proverbes. Parce que c'est la seule chose que je trouvais. Et ces textes-là, ils servent déjà à des cours d'alpha. Et ça c'est vraiment bien. Ma grande victoire, ce serait que ça serve dans un manuel, ce serait qu'on prenne un texte dans un manuel de collège. Ça, ce serait la grande victoire.
Bah, peut-être.
Avis aux éditeurs.
Peut-être que ça va venir.
On sait jamais.
Et donc, tu parlais de Martine Vernier, et la préface est de Martine Vernier.
Oui.
Ou l'avant-propos.
Oui.
Hein, et où on explique.
On l'a fait ensemble et elle l'a signé parce que d'abord c'est elle qui l'a mise en forme, c'est elle qui a tout vérifié, parce qu'elle a sa place dans ce livre. Pour mémoire, c'est elle qui avait édité 70 regards sur l'immigration, et qui est un livre remarquable aussi, avec 70 témoignages, et j'avais collaboré avec elle pour un texte. Et j'avais apprécié notre collaboration. C'est quelqu'un qui sait faire, qui sait se mettre derrière les gens, qui se met pas du tout en avant et qui est très modeste et qui fait un boulot remarquable. Donc c'est elle qui a fait tout le travail de pagination, etc. Et toute la négociation avec l'éditeur, c'est elle aussi. Donc on l'invite, elle sera à notre fête du foyer samedi prochain, et j'espère qu'on lui rendra un petit hommage.
Ça, on l'annoncera à l'agenda, la fête de samedi.
Bon, enfin, c'est pas une fête ouverte, hein. Non plus, c'est une fête avec les amis du foyer, quoi.
Alors on ne l'annoncera pas.
Voilà. Mais bon, je pense que c'est important qu'elle vienne, parce qu'en fait, elle a beaucoup participé, elle a lu, relu, et tous ces gens, elle ne les connaît pas. Donc elle va les rencontrer, ça c'est bien.
Voilà, et moi aussi, je l'ai lu, et y a des personnes que je connais, puis beaucoup de gens que je connais pas. Et j'aimerais te faire parler d'histoire, mais il y a trop, trop d'histoires sur lesquelles j'aimerais te faire parler. Peut-être on peut...
Lesquelles ? Vas-y.
Tu choisis. Peut-être l'histoire du collectif, et puis il y a Il y a Mamadou Sow qui est là aussi, qui fait partie du collectif, qui a sûrement quelque chose à dire sur ce livre.
Ouais, ce livre me fait rappeler de ma vie d'abord et la vie des autres. Parce que tous les gens qui ont témoigné dans ce livre, donc c'est les gens que je connais, c'est les gens qui avaient la même situation que moi. Donc, ce livre parle de ma vie d'abord.
Oui.
Ouais.
Et moi, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que justement, on a tendance à dire, oui, les sans-papiers, et à donner un type de sans-papiers, alors que ça n'existe pas. Il y a autant d'histoires de sans-papiers.
Ça, c'est aussi
qu'il y a de personnes qui sont... Ouais. D'abord, j'aime pas le mot sans-papiers, mais en situation administrative irrégulière.
Ça, c'est quelque chose que je voulais éviter. Parce que quand je tombe sur un énième livre sur les sans-papiers, à la page 30, je fatigue. Parce que c'est souvent... Bon, il y a des choses intéressantes, mais bon, je connais par cœur, quoi. Et là, ce que je voulais, c'était qu'on s'embête pas. Donc, il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. C'est pas des sans-papiers qui parlent, c'est des personnes qui sont là. C'est des personnes qui prennent la parole. Il y en a un qui dit, d'ailleurs, c'est bien ce que tu fais parce que quand on manifeste, il y a celui qui a le micro et qui parle, mais nous, on nous entend pas. Là, je veux dire, on peut dire qui on est. Il y en a qui disent dedans, tu mets bien ma date de naissance, je veux qu'on me reconnaisse. Tu mets mon lieu et ma date de naissance, je veux qu'on me reconnaisse.
Ouais.
Voilà. Et ils ont le sentiment de prendre la parole et d'être écoutés pour la première fois, en tant que personne, pas seulement en tant que sans-papier. Voilà.
Et il y a un petit chapitre qui est... Ou alors là, c'est toi qui parles.
Oui, il y en a plusieurs.
C'est toi qui parles en tant que...
professionnel,
hein, et qui est vachement intéressant, où tu poses la question de la culture, culture d'origine, culture, bonne culture, mauvaise culture.
Oui, alors, sur l'école, quand même, parce que l'école, elle n'est pas accueillante. En ce moment, la mode, c'est de parler d'école bienveillante. Ils nous font rire avec ça. Il n'y a pas de tradition d'accueil à l'école. Les gosses sont très mal accueillis. Et moi qui travaille sur des centres d'action psychopédagogique, je vois bien, il y a des écoles où les gosses de l'immigration, ils sont accueillis à la Kalachnikov. Alors c'est moitié rejet, moitié indifférence. En tout cas, il y a une chose qui n'est jamais prise en compte à l'école, c'est ce que le gamin sait. Ne sont jamais prises en compte les langues d'origine. Ça, c'est un truc épouvantable. Mais on est quand même dans un pays où il y a quand même des parlementaires qui ont parlé des borgborigmes africains, tout de même. Il ne faut pas oublier ça. Des borgborigmes. Le borgborigme, c'est le bruit qu'on fait avec son estomac quand on digère mal. C'est même pas un dialecte, c'est même pas un sabir. De borgborigme, c'est boum, 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 boum. Voilà. C'est d'un mépris total. Alors le bambara, le soniké, l'arabe, ça n'existe pas. Ce ne sont pas des langues. C'est des trucs que les gens échangent entre eux qui n'ont aucune valeur. Voilà. Le chinois un peu plus parce qu'il y a du commerce. Alors le chinois est en train de prendre un petit peu. Mais le nombre d'instits qui vont s'émerveiller parce qu'un gamin arrive d'Angleterre ou d'Allemagne, oh il est bilingue, c'est formidable, et qui ne se rendent pas compte que la petite elle traduit en tamoul comme ça, que le petit là il parle kabyle, arabe et français, que l'autre il parle soniké, poulard, enfin c'est que on a affaire à des enfants polyglottes. On a affaire à des enfants qui ont de véritables compétences. Et si on ne s'appuie pas sur ces compétences-là, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'apprennent pas à lire ou qu'ils n'apprennent pas la grammaire. Alors que si ça faisait partie de la formation des enseignants, pas seulement sous l'angle les erreurs qu'on peut faire quand on vient d'une autre langue, je pense, leçon de grammaire simple sur le pluriel. Le pluriel dans ta langue, comment on fait? Est-ce qu'on met un S au bout? Est-ce qu'on fait ceci? Simplement de rendre à l'enfant, quand il y en a plusieurs, comment on fait pour le dire? Simplement lui dire que, lui montrer que lui, il sait quelque chose, que les autres ne savent pas. Et que donc, donner le côté, le français, c'est pas juste la norme, c'est une langue. C'est la langue dans laquelle on va tous parler entre nous. Mais vous savez des choses qui peuvent aider tout le monde. En plus, bon, ça les renforce quand même. Ça les remet. C'est pas juste un truc dont on doit avoir honte, ce qu'ils parlent entre eux. Redonner le statut. Et puis redonner le statut de traducteur aux enfants quand ils traduisent pour les parents, parce que c'est quand même pas n'importe quel rôle.
C'est un rôle extrêmement compliqué.
Voilà. Ça, c'est pas du tout pris en compte. Pas du tout, du tout, du tout pris en compte.
C'est d'autant moins pris en compte, là, on sort un peu du livre, mais de situations dont j'ai été témoin. C'est un pré-conseil de discipline. Et une gamine vient avec sa maman. maman qui ne lisait pas le français, qu'il comprenait assez mal. La gamine, elle, elle comprenait tout. C'était des gens où elle devait être en sixième ou en cinquième. Et la maman lui dit, tu as compris, Awa, tu as compris, Awa. Et les profs disaient, voilà, la maman, elle a compris, elle dit à sa fille, tu as compris.
Hein, alors que c'était l'inverse.
Alors que c'était l'inverse, tu as compris, tu me réexpliqueras à la maison. Comment demander à une gamine dont on fait un espèce de procès, qui était plus ou moins justifié d'ailleurs, parce qu'elle avait fait des grosses conneries, d'expliquer à sa maman les conneries qu'elle a fait. Elle ne le fera pas.
Voilà. Mais ça fait vraiment partie de, ça fait vraiment partie de la culture. En Islande, tout l'affichage administratif est fait en 22 langues. En France, il n'y a rien. En France, si, on a dans le métro, attention au pickpocket, en chinois, en italien, en espagnol, pour les touristes. Mais il n'y a pas un affichage qui est fait en plusieurs langues. Pas un seul. Voilà. Parce qu'en France, on est le centre du monde. Parce qu'on a inventé la culture. Voilà. On a inventé la culture, la politique, et que les étrangers, ils n'ont qu'à apprendre le français. Moi, mon grand-père, il ne parlait pas français quand il est arrivé.
Voilà, et tu parles, quand tu parles un peu, si on me demandait ma culture, parce qu'on reproche aussi beaucoup aux gamins de ne pas connaître leur culture.
Mais qu'est-ce qu'on en sait de leur culture d'abord ? D'abord, parce que les enseignants ont une idée de ce que devrait être la culture de l'enfant, qui n'est pas toujours la bonne, parce qu'ils ne connaissent pas les pays d'origine, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis, leur culture à eux, c'est quoi ? Moi, je veux dire que je le dis juste à un moment dans le livre, mais si moi, petite, on m'avait demandé d'amener ma culture, qu'est-ce que j'amenais ? La bouteille de Ricard ? Le ticket de tiercé ? C'est vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas. C'est quoi la culture des parents français ? D'abord, il faudrait voir depuis combien de temps ils sont français, ce qu'ils en retiennent. Il faut aussi rappeler que, historiquement, par exemple, les premiers métros, ils ont été construits par des Kabyles qui épousaient des Bretonnes. Ils étaient aussi mal considérés que les Bretonnes. Il ne faut pas oublier que les Bretons, quand ils arrivaient à Paris, ils ne parlaient pas français. Ils demandaient baragouin, du pain et du vin. Ils étaient considérés comme les moins que rien. Il faut arrêter de penser que les étrangers seraient mal accueillis parce qu'ils seraient trop nombreux maintenant. On les a toujours mal accueillis, les étrangers, toujours. Et pour commencer, les étrangers de l'intérieur. Les Bretons principalement, les Bretons, les Belges étaient très 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 mal considérés. Les Flamands, ils se sont fait massacrer au XVIIIe siècle. Et pourtant, c'est les ouvriers ébénistes flamands qui ont renouvelé tout l'art du mobilier français. Il y a des choses comme ça, on oublie complètement.
Et si on se balade dans les archives de la police, dans la première moitié du 19e siècle et un peu après, les Auvergnats étaient inintégrables.
Totalement.
On ne parlait pas de toxicomanie, mais on parlait d'alcoolisme. C'était eux qui faisaient donc les marchands de vin, marchands de charbon. C'était un peuple absolument inintégrable et c'était des sauvages qui devaient remonter dans leur montagne.
J'ai un vieux livre d'histoire qui parle du Paris des étrangers. Il y a l'Auvergnat, le Breton, le Levantin, le Juif. C'est très très drôle à lire parce que c'est l'étranger de l'intérieur et l'étranger d'ailleurs, même s'il est là depuis trois générations, ils sont considérés avec le même mépris.
L'étranger a toujours existé, mais ça n'a pas toujours été le même.
Mais l'étranger, il sent mauvais, il pense qu'à faire des enfants et à nous voler nos femmes. Voilà. Depuis toujours.
Et donc, il y a des tas de choses à parler de ce livre. Est-ce que tu peux nous... Enfin, on va parler surtout maintenant du collectif aussi.
Oui, un peu, parce que c'est quand même... Parce que, alors, moi, j'ai eu un SMS tout à l'heure de quelqu'un qui est voisin du collectif et qui me dit « Merci de me donner l'historique. Merci de m'expliquer... Je viens de comprendre d'où vient ce collectif. Merci d'expliquer tout ce qui s'est passé avant. » Parce qu'il y a eu deux temps, en fait. Il y a eu 2010, il y a eu toute une série de premières interviews, et puis il y a eu 2014 où j'ai essayé de réactualiser toutes les interviews. Donc, il y a des gens qui sont interviewés deux fois. Donc c'est intéressant de voir le parcours. Et donc on a tout l'historique du collectif. Parce que le collectif, il est né de la Grande Grève. Le 17e, c'était le seul endroit où on avait un comité de soutien aux grévistes avec tout le monde. Les grévistes, les non-grévistes, la CGT, Sud, on avait tout le monde. La CNT, on avait tout le monde. RESF, évidemment. On avait absolument tout le monde. Et moi, je me souviens encore, je me souviens de Chauveau hurlant, nous traitant de jaunes, parce que les grévistes et les non-grévistes étaient dans le même collectif. Et nous, je veux dire, on y tenait beaucoup à rester ensemble à cette époque-là. Et le collectif est né de ça. Il est né de cette collaboration. Et Fabienne de la CGT, elle le dit même elle-même. Elle dit « J'ai appris à travailler avec les autres ». Alors, est-ce qu'elle a bien appris ou pas ? Ça, c'est après à voir. Hein. Mais elle dit « J'ai compris que les autres, ce n'étaient pas forcément des ennemis ». C'est là où elle a rencontré RESF. C'est là, voilà. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi.
Et c'est un des côtés qui est intéressant, justement, dans ce livre, c'est qu'il replace ce mouvement donc, autour du collectif Saint-Just, mais pas que, dans son contexte à la fois historique, même si c'est une histoire relativement courte, elle n'est pas si courte que ça, en vérité, et elle replace dans un contexte aussi géographique, c'est que donc et tu expliques bien ce le chaudron du 17e et pourquoi le 17e est un chaudron et
mais tu dis que l'histoire est courte, mais si on l'écrit pas, on va la perdre. Quand on a perdu notre permanence rue Léon dans le 18e, il y avait quelqu'un qui avait écrit sur le mur, les murs tombent mais les histoires restent. Les histoires, elles restent à condition qu'on les écrive. Parce que tous ces gens du collectif, tous ces grévistes, ils font partie de l'histoire de France. Mais si on veut qu'ils soient ancrés dans cette histoire de France, si on veut qu'ils existent, il faut écrire leur histoire. Voilà. Autrement, ils vont disparaître dans les poubelles. Voilà.
D'où une grande importance de ce bouquin et de voir, de voir justement cette dynamique, cette convergence et comment cette grève et cette grève centrée sur le 17e, sur le collectif de Saint-Just, finalement, ce sont des trajectoires.
Qui n'existaient pas à l'époque.
Qui n'existaient pas. Ce sont des trajectoires personnelles. C'est une histoire sociale, une histoire pas seulement de la France, mais une histoire de la France, des mouvements ouvriers, des mouvements de sans-papiers. Et tout ça converge.
C'est une partie de l'histoire de France. Mais je voudrais pas qu'on croie que c'est de la théorie et que c'est des petites interviews. Moi, je me suis bagarrée pour que ce soit un bel objet aussi, que ce soit clair, que ce soit agréable à lire. C'est des tranches de vie avec des vrais morceaux de poésie dedans. Parce que je voulais aussi, parce que bon, moi, j'aime bien la poésie et que sans poésie, je trouve qu'on n'est rien du tout. Et j'ai essayé de trouver un extrait de poésie avant chaque interview qui fasse résonner l'interview. Et je pense que là-dessus, c'est pas mal réussi.
C'est tout à fait réussi.
Avec de la poésie de partout.
Est-ce que tu pourrais nous lire quelques petits textes là. J'en ai un sous la main qui m'avait...
T'avais frappé ?
Qui m'avait frappé et qui est justement au-dessus de l'école de l'immigration, qui est le chapitre dont on parlait.
C'est
en parlant
page 51. Ah oui, c'est un morceau de poème kabyle qui dit « Le bateau des exilés ». Le bateau est dans le port en partance pour la France. Enfant, formuler des vœux, l'exil lacère le foie. Le bateau du quai s'arrache, mon cœur s'en trouve atterré. Enfant, formuler des vœux, tout, tant en engloutit l'exil. S'il y a des gens qui veulent le poème en entier, je leur fournis, il n'y a pas de problème.
Voilà,
parce que je l'ai en entier, bien entendu.
Donc il n'y aura qu'à nous écrire.
Vous demander et puis je vous le donne.
RESF.fpp et puis on communique à Marie-Cécile ou...
Il y a beaucoup de Michaud, parce que j'aime beaucoup Michaud.
Oui,
et alors, il y a quand même du Desnos. Il y a tout de même du Desnos, parce que j'ai un copain qui me dit « Alors, quel poème de Desnos as-tu trouvé ?» Et je me suis aperçue que je n'avais pas mis de Desnos. Alors du coup, j'ai cherché la moitié de la nuit, j'ai trouvé. C'est avant, je ne sais plus, c'est le Desnos. Si tu trouves la page, on leur redira. Mais bon, sinon, il y a... Les poèmes, c'est pas des poèmes que j'ai écrits du tout, hein, évidemment. Ce sont des poèmes qui viennent du monde entier. Je dis ça pendant qu'il cherche la page avec le Death Note, il va pas le trouver. Pam pam pam, on va pas le trouver.
Je trouverai pas, c'est pas grave.
C'est pas grave. Si on le trouve, on vous le dira. Mais c'était parce que je voulais aussi des poèmes d'un peu partout. Donc il y a un poème africain, il y a un poème libanais, il y a deux poètes belges, enfin il y a un poète irakien. Je voulais aussi que ce soit de la poésie du monde entier.
Voilà.
Parce que tous ces gens, ils viennent du monde entier.
Et si tu parlais un petit peu des différents textes qui sont là, et peut-être aussi du collectif, puisque tous ces textes-là, ça réunit le collectif. Donc on en est où maintenant ? Parce que c'est un collectif aussi qui a, et ça c'est ce qu'on découvre en lisant ce livre, qui a un fonctionnement bien particulier.
Oui.
Qui ne fonctionne pas comme tous les collectifs.
Tu veux en parler, Mamadou ?
Voilà,
donc... Moi, je vais en dire deux mots avant qu'il parle, pendant qu'il se prépare. C'est un collectif honnête. Voilà, d'abord. C'est un collectif, on n'a pas de délégués élus à vie et qui sont là depuis 20 ans. Voilà. Donc, les délégués, le président, dès qu'ils sont régularisés, ils ne sont plus délégués, ils ne sont plus présidents. Donc, ça veut dire que la première tâche d'un délégué ou d'un président, c'est de former celui qui va lui succéder. Voilà. Ensuite, on ne veut pas se priver des gens qui ont travaillé pour nous, parce qu'on ne veut pas non plus que les gens se sauvent, donc on a formé un comité des sages.
Ouais.
Voilà. Et là, Mamadou, il peut très bien en parler.
Donc,
allez.
Ouais, donc, ce collectif, elle connaît mieux que moi, parce que moi, je suis venu un an après la création du CSP. Comme elle a dit, il n'y a pas... comment je dois dire? Il n'y a pas de petit chef, par exemple. Il n'y a pas... comment je dois expliquer? On ne cherche pas à être petit chef ou chercher de pouvoir.
Ouais.
Par exemple, chercher de pouvoir. Donc, il y a la démocratie totale. Par exemple, celui qui est régularisé, tu seras plus président si la personne s'occupait de la poste du président ou la poste d'un secrétaire. Donc, il va donner la place à un sans-papier. Voilà. Donc, le CSP est créé au mois de mars.
CSP,
collectif
de sans-papiers.
De
sans-papiers, oui.
Ouais, du 17e. Il est créé en mois de mars 2009. Donc, on avait du mal à prendre le départ. On avait du mal de fonctionner parce qu'on n'avait pas de soutien. On ne sait pas donc, comment aller ou comment faire des manifs. Donc, j'ai perdu mes mots là.
Ouais, donc
vous étiez déterminé pour occuper un lieu. En ce même l'origine si tu peux, de la
si tu peux parler
création
devant le micro. Voilà.
Du CSP, notre objectif, c'était de trouver des soutiens pour mener des actions. Donc, nous avons essayé de travailler avec beaucoup, avec CGT, donc pour avoir la confiance. Mais bon, grâce à eux, donc, on est quand même allé un peu loin. Donc, oui. Ce qui a été fait, ce n'est rien par rapport à ce qu'on doit...
Sur l'histoire du collectif, il y a Dominique Malveau qui compte pas pour du beurre quand même, qui a vraiment été, qui a une belle interview là, je pense, qui a vraiment été l'âme du début. Mmh. Il avait vraiment une idée précise de ce qu'il voulait, ou plutôt de ce qu'il voulait surtout pas, et il a vraiment impulsé le départ. C'est quand même grâce à lui qu'on travaille avec Sudrail. Mmh. Et Sudrail nous est quand même d'une aide très très précieuse là-dessus. Et puis, il y a quand même quelqu'un dont j'oublie toujours de parler, et ça, je m'en excuse auprès de lui. C'est Brooks, c'est Lionel Brooks qui nous a quand même fait la couverture et une belle carte du 17e à l'intérieur du livre où on voit tout ce qui s'y passe. Et il a quand même travaillé totalement bénévolement, donc il faut peut-être lui rendre hommage aussi. Donc,
oui, ben.
Voilà.
Parce Brooks que est venu plusieurs fois voilà. Ici dans cette émission. Et on voit d'ailleurs une très belle planche dans. Son deuxième recueil de l'émission.
Dominique Malveau nous a soutenus.
Si tu peux parler en face du micro, parce que sinon on ne t'entend plus.
Ouais. Conseiller, mais surtout avec le début des grèves, mis le CSU pour le CSP et le gréviste, il a permis partir. Politique, syndicat et association de travail.
Ouais.
C'est ainsi que une dynamique avec l'arrivée de beaucoup de droits devant, je sais pas, c'est.
Marie-Cécile. C'est dur, il panique complètement.
De Marie-Cécile à Anne. Marie, bon, il y a beaucoup de monde. Bon, j'ai commencé à oublier.
Non, mais elle panique
complètement. C'est pas grave, faut pas.
Tiens, je vais vous lire le petit Lesnos. C'est parce que c'est l'interview de Kébé Mamadou qui explique que quand il était vigile, il contrôlait les flics et que donc il les empêchait de passer.
Ouais.
Donc je l'ai appelé l'enjôleur de gendarmes. Et donc je lui ai trouvé un petit passage de Lesnos qui dit va. Poursuis ton chemin. Il n'est plus de frontières, plus de douanes, plus de gendarmes, plus de prisons. Tu es libre et tu ris et tu parcours la terre et tu passes devant les détectives sans un frisson. C'est les poèmes de résistance de Desnos. Et ça allait tellement bien avec Kébé. C'était exactement le texte qu'il fallait.
Si tu pouvais nous parler un petit peu justement de Kébé qui faisait le vigile.
Kébé, c'est Kébé, il s'est pris au jeu de la grève beaucoup. Il a été un vrai délégué. Il est toujours délégué d'ailleurs. Hein.
Ouais.
Il est toujours délégué syndical. Il continue à s'occuper des gens quand même. Mais c'est vrai quand il explique qu'il avait son uniforme, il avait son badge et tout, et qu'il empêchait les flics de passer et qu'il donnait des ordres aux flics, c'est extraordinaire.
Quel uniforme et quel badge
et ben, il avait un uniforme de vigile parce qu'il surveillait des chantiers. Okay. En fait. Et donc, il était responsable de la sécurité.
D'accord.
Et donc, il devait donner des casques aux policiers.
Oui.
Et donc, qui venaient pour faire je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Et donc, il n'avait jamais assez de casques pour tous les policiers. C'était... Mais il le dit avec une jubilation qui est quand même assez, assez drôle. Mais il faut le lire, ça. Sinon, il y a une histoire que j'aime beaucoup. Moi, c'est l'histoire de Petit Mousse.
Oui.
C'est parce que je raconte des scènes de rééducation. C'est un petit de 4 ans dont les parents sont sans papier, qui ne sait pas jouer, qui ne parle pas, qui paraît toujours fatigué. Il ne veut jouer qu'aux poupons, lui donner le biberon et le promener en poussette. Lundi dernier, j'avais installé un grand circuit de train, parce que je voulais qu'il joue un peu à autre chose. Il n'avait même pas l'idée de faire le tour de la table pour faire avancer le train. Alors il se penchait au-dessus de la table et renversait tout. Et puis je m'aperçois qu'il ne joue que d'une main. Je réussis à lui faire sortir la main de la poche, j'avais peur qu'il se soit blessé. Il avait le poing tout fermé sur un ticket de RER sur lequel était marqué Roissy. Ce gamin vient de Roissy à Paris, plus d'une heure de transport, tous les matins. Et il serre son ticket parce que c'est le seul truc qu'il raccroche à sa maison, qui doit être un hôtel provisoire. Mais ça date, parce que maintenant, ce gamin, il serait carrément SDF.
Ouais.
Voilà. Au moins, celui-là, il était logé.
Mmh.
Mais ce qui nous paraissait scandaleux dans les années 2010, c'était d'avoir un gamin comme ça, qu'on traînait d'hôtel en hôtel, banlieue sud, banlieue nord, banlieue ouest, et qui ne pouvait donc pas se fixer quelque part. Maintenant, ce qu'on trouve scandaleux, c'est qu'il n'ait même pas ce droit-là. Voilà. Donc la situation s'est largement détériorée.
Voilà, et là, ça me fait faire une petite digression, mais une des choses qui m'a amené à la radio ici, c'est le gymnase, enfin le squat et le gymnase de Cachan, qui aujourd'hui serait d'une grande banalité.
Absolument.
C'était quoi, en 96, il y a eu 101 Maliens, un charter.
Oui.
Mais ce n'est même pas le nombre des expulsions par jour aujourd'hui.
Mmh.
C'est...
Oui, tout à fait. Non, mais il faut pas qu'on s'habitue à l'horreur.
Ouais.
Parce que maintenant, on marche, on trouve normal d'avoir plein de SDF dans la rue, on trouve normal de baisser la tête et de ne pas les voir, on trouve normal de ne pas pouvoir prendre le métro sans avoir 3 personnes qui viennent mendier dans le métro. Il y a quelques années, ça nous aurait affreusement choqués.
Ouais.
Et quand on a des gens qui viennent de l'étranger, c'est ça qui les choque.
Ouais.
C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des étrangers chez nous, parce qu'ils nous donnent un regard sur notre monde qui est toujours très intéressant.
Mmh.
Un Africain qui arrive... qui se dit le métro parce qu'il en rêve, parce qu'il n'en a jamais vu le train sous terre et tout, le lanaleli, comme on dit en peul, et puis qui voit des SDF et qui voit des gens là, mais il est horriblement choqué. Et je veux dire, de voir un étranger choqué parce qu'il nous paraît banal maintenant, ça nous remet les choses en place, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal quand je sors de chez moi de rencontrer 15 SDF entre ma porte et le métro. C'est pas normal.
Mmh.
Mais en fait, on finit par s'y habituer. Et
voilà.
ça, c'est absolument dramatique. Donc,
donc,
l'initiative des profs de Guimard, c'est fondamental. C'est pour dire non, c'est pas normal ça. Ça, c'est pas normal. Et si on peut s'occuper des siens, je me souviens d'une instite qui ne s'occupait que des sans-papiers de son école. Et qui s'en excusait en disant je ne m'occupe que des miens, j'ai pas le temps de m'occuper des autres. Et je lui avais dit mais si tout le monde faisait ça, si tout le monde s'occupait des siens, si tout le monde s'occupait de ses élèves, de ses enfants, de ses voisins, mais ce serait formidable. On changerait le monde.
Absolument.
C'est ce que je dis à la fin du livre,
oui.
Un peu.
Et donc, pour revenir au... Oui, tu allais lire un passage.
Oui, je voulais lire un passage. Les sans-papiers que nous côtoyons chaque jour mettent du temps à nous poser la question du pourquoi nous sommes là. Pourquoi on passe nos jours ou durant les grèves nos nuits? Pourquoi on donne du temps, de l'argent? Pourquoi? Comment avez-vous décidé de nous aider? Les témoignages des voisins devraient donner un éclairage sur la question. Cela dit, une première façon consiste à dire « Cessez de nous remercier. C'est nous qui vous sommes redevables de nous montrer la voie de la dignité et du courage. C'est nous qui vous remercions, vous qui, par votre ténacité et votre détermination, nous obligez, nous, à nous tenir debout et à nous battre. » Et en y réfléchissant un peu, on s'aperçoit que la question n'est pas pertinente. C'est pas pourquoi nous sommes là qu'il faudrait nous demander, mais pourquoi nous sommes si peu nombreux. Parce qu'on peut aussi, sans pour autant devenir un militant de chaque instant, regarder autour de soi, aller voir ses voisins, protester quand on entend des propos inadmissibles, ne pas se laisser aller à penser bas, aller à la rencontre de l'autre, partager. On peut ainsi marcher du côté du soleil en redressant la tête, se prendre un peu pour des humains et faire taire le silence des chaussons qui se révèlent toujours beaucoup plus dangereux que le bruit des bottes.
Voilà, ben c'est très
beau. C'est la fin du livre, ça.
Et peut-être donc la fin du livre, mais en même temps, le livre, il n'est pas tout à fait... Enfin, il n'est pas terminé. Je veux dire qu'il y aura probablement un volume 2, au moins dans l'histoire.
Si on arrive à le vendre, parce que ce n'est pas le tout de faire un livre, il faut le vendre. Parce qu'il n'est pas présent dans les librairies, il faut le commander.
Ah.
Oui, parce que l'Armatan l'édite, c'est-à-dire que, mais ne l'envoie pas. Enfin, les librairies ne le prennent pas. Si vous allez à la FNAC, vous n'allez pas le trouver. Il faut le commander. Donc les gens qui ne savent pas que le livre existe ne vont pas l'acheter. Ce n'est pas les mémoires de Valérie, hein, évidemment.
Oui, et puis
il ne va pas être sur les rayons.
Mm-hmm. Bah, donc il faut absolument en parler. Bah, à AFPP, je suis sûr qu'on en parlera. Et puis d'autres émissions seront tout à fait d'accord pour en parler.
Et puis on vient pour tenir des réunions quand vous voulez. Hein.
Oui.
Là, on va aller à Belfort. Le 23 janvier, on sera à Belfort. On sera à Lens.
À Lens.
On devrait être à Belfort. On prépare une réunion sur Bruxelles.
Ouais.
Sur Paris, ça va se faire d'ici janvier-février. Voilà. Mais on vient, on anime n'importe quelle réunion et on vient volontiers.
Ok. Et peut-être on pourrait conclure, avant de passer à l'autre agenda, sur maintenant ça en est où, le collectif Saint-Just, régularisation et combat. Est-ce qu'il y a eu, donc, au niveau des régularisations, il y a eu pas mal de régularisations,
oui,
je crois, qui ont été arrachées.
Oui.
Et maintenant, ça en est où, les combats du collectif Saint-Just, et si tu peux parler en face du micro. Voilà.
Oui, bon, dans ces cas, c'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure de ça. Donc, j'ai dit, grâce à eux, donc, on est allé loin. Bon, il nous reste encore, mais ce qui a été fait, donc, c'est mieux que rien quand même. Donc,
ouais,
le CSP a été créé en 2009. Donc, 2009-2014, on a obtenu 112 régularisés. Donc, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, grâce à leur travail, donc à leur motivation, donc nous avons 112 régularisés.
Alors le souci, donc, quand on régularise, c'est qu'on est obligé de changer de délégué. Donc
ouais,
quand on a trop de régularisation, on est embêté parce qu'on n'a plus de délégué. Mais bon, c'est très bien.
C'est très bien. Après tout, mais je veux dire, c'est la même chose. On parlait de cette émission qu'on a fait où tu étais venu pour la première. Donc, il y a maintenant presque 8 ans.
Ouais.
Quand on l'a commencé, jamais j'aurais imaginé faire ça. C'est la 335e.
Waouh.
J'ai pensé en faire quoi, une dizaine, pas plus.
Ouais, c'est beau.
C'est. Ça ne s'arrête pas.
Oui, mais l'héroïsme, il est quotidien. Hein. L'héroïsme, ce n'est pas de se lever un jour et de dire je ne suis pas d'accord. L'héroïsme, c'est de tenir tous les jours.
Bah,
et
oui,
donc,
mais bon,
335 émissions, c'est de l'héroïsme, ouais. C'est du beau
pas,
boulot.
Non,
c'est du beau boulot.
C'est du boulot, mais
non,
c'est...
parce qu'on pense jamais à te remercier toi.
Soirée,
bah quand même, il faut
pas...
le tenir. Hein. Il faut tenir le cap. Il faut tenir tous les mercredis. Il faut. C'est pas mal, hein, quand même. C'est quand même un sacré engagement de ta part aussi. Je trouve.
Bon, ça c'est.
Bah oui, quand même. Non, mais je veux dire, on salue jamais. Mais oui, bien sûr.
Bon, ben merci, je vais rougir.
Il rougit, mais ça ne se voit pas à la radio, il est tout rouge.
Voilà, donc sinon on va peut-être, on attendait un appel quand même,
oui,
de Lyon.
Pas.
Mais bon, je crois que Lyon ne nous appellera pas et puis on n'aura plus le temps pour les prendre. Donc simplement, c'était pour dire qu'il y a un certain nombre d'écoles qui sont occupées à Lyon pour loger les familles lyonnaises dont les enfants sont scolarisés dans les écoles et qui sont à la rue. Donc, je vais simplement donner quelques-unes des écoles qui étaient occupées, mais ça remonte à la semaine dernière, parce que je crois qu'il y a 5 ou 6 écoles qui ont été occupées maintenant. Donc, dans le premier arrondissement, il y a l'école Victor Hugo. Dans le 7e arrondissement de Lyon, l'école Gabriel Dru et l'école Voyet. Dans le 6e arrondissement, l'école Giono. Des écoles mobilisées aussi, donc l'école Douaneau, dans le premier, l'école Tourelle, etc. Et il y a aussi des collèges. Et on peut trouver donc sur RESF des pétitions à faire signer sans modération pour régler ces questions de logement. Donc ça, c'est problème de logement, donc on les retrouve. C'est un grand problème maintenant. Donc on va peut-être passer maintenant un mot pour conclure avant de passer à l'autre agenda, puisque je vois que les oreilles loin du fond s'installent. Ah, on me fait signe qu'il y a 2 minutes. Heureusement que l'agenda est très court, donc 30 secondes pour conclure. 30 secondes pour conclure.
Eh bien, lisez, commandez, achetez les papiers, le combat de la dignité, 1000 voix, 1000 chants, l'Armatan. Voilà, ça c'est important. Il faut le lire, il faut le faire lire, il faut le faire connaître.
Voilà, Mamadou, un mot pour conclure aussi.
Oui, je dis merci à tout le monde. Merci à Marie-Cécile et l'ensemble de soutien qui nous entoure, que ce soit CSP, que ce soit tous les CSP de France. Voilà, merci de votre soutien quand même et la lutte continue.